BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans La France a tout pour réussir. Chaque semaine, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Cette semaine, je vous propose de nous replonger dans le salon Global Industrie où nous étions en direct il y a quelques jours pour une émission spéciale et notamment sur la thématique de la France des territoires, un sujet que nous avons abordé avec Alexandre Sobo, le patron de France Industrie. Il est notre premier invité. À ses côtés, Elisabeth Ducoté, très impliquée dans le combat pour l'industrie en France. Elle-même est à la tête de l'ETI familiale Tuan, spécialisée dans le matériel médical et elle est basée à Saint-Étienne. Nous poursuivrons ce tour de France de l'industrie avec deux autres entreprises installées en région. Roboc, des chariots robotiques. L'entreprise est basée dans le Tarn et son cofondateur Patrick Délinger est en plateau avec nous. Nous parlerons aussi du groupe d'ingénierie industrielle Pinette PEI, basé à Chalon-sur-Saône. Notre quatrième invité est Éric Rousseau, le directeur général de Pinette PEI. On commence donc avec vous, Alexandre Sobo. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de France Industrie, la structure qui, depuis 2018, porte la voix des industriels français. Vous regroupez, si mes chiffres sont bons, plus de 80 adhérents, 50 grandes entreprises industrielles et une trentaine de fédérations industrielles. Et vous êtes vous-même, bien sûr, un industriel à la tête du groupe Holot qui produit des appareils d'élévation, des personnes comme des charges, situés dans la Loire comme Tuan. On a beaucoup parlé dans la première partie de l'émission, voilà, de l'état d'esprit des industriels. On s'était vu d'ailleurs à Lyon en 2023. Et état d'esprit qui a évolué, ne serait-ce que le contexte budgétaire qui n'est plus le même. L'industriel que vous êtes et tous ceux que vous représentez, quel est votre état d'esprit en ce mois de mars 2024 ?
Je pense d'abord on reste combatif. Un industriel se doit d'être optimiste et quel que soit l'environnement, qu'il soit très porteur ou comme c'est le cas un tout petit peu moins porteur, se doit de continuer à avancer et de regarder toutes les voies et moyens qui lui permettent de faire plus et mieux demain qu'hier.
Et c'est quoi les principaux freins depuis ? Est-ce qu'il y a une crainte que les plans d'investissement et de relance sont moins à la hauteur ? C'est une crainte du contexte économique avec une croissance qu'on ne cesse de réviser à la baisse ?
Je pense qu'il y a trois grandes choses qui ont changé. Premièrement, effectivement, l'environnement économique avec une croissance qui s'est un peu tassée. Donc, j'allais dire un dynamisme qui est plus variable d'un secteur à l'autre. Il est encore très bon dans l'aéronautique, dans la défense, dans l'armement. Il est effectivement un peu plus dur dans d'autres secteurs, l'automobile, le textile, l'ameublement. On voit que l'environnement peut être un petit peu plus dur. La deuxième chose quand même par rapport à tous ces plans d'investissement, c'est la très forte remontée des taux d'intérêt, ouais, qui est venue effectivement peser sur la façon dont les gens pensaient financer et réaliser tout un tas de projets. Donc, on est obligé de tenir compte de l'évolution de l'environnement. Et puis la troisième, on ne peut pas se le cacher, c'est depuis maintenant 12 mois, notamment en Europe, on a produit un environnement réglementaire qui est tout sauf favorable à la réindustrialisation.
Trop, je vous lisais ce matin dans les échos, vous disiez, je ne suis pas serein, entre la taxonomie, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières ou encore la directive CSRD, je ne suis pas très serein pour nos entreprises.
Je pense que derrière tous ces projets, il y a une orientation qu'on partage pleinement autour de la maîtrise des chaînes de valeur, de la décarbonation, de l'attention à la planète et à notre environnement. Simplement, cette approche est totalement réglementaire, administrative et bureaucratique. Et elle va venir dans nos entreprises consommer une énergie pour faire du reporting, pour couvrir des risques juridiques, qui sera là en moins pour faire, et notamment pour financer les projets, déployer tout ce qu'il faut faire pour réussir la décarbonation. Quand on imagine tout le coût de l'audit des nouvelles procédures CSRD, les bras m'en tombent.
Est-ce que les engagements de débureaucratiser, de simplifier, pris par le Premier ministre Gabriel Attal, c'est quoi ? C'est du vent encore ou est-ce que vous espérez beaucoup ?
J'ai commencé par là. L'industriel se doit d'être optimiste. Donc quand le Premier ministre dit qu'il veut nous simplifier la vie, j'ai très envie de le croire. Maintenant, comme toujours, on a besoin de passer des paroles aux actes. Et avec tout ce qui s'est passé depuis 12 mois, simplifier notre vie va être un vrai challenge.
Elisabeth Ducoté, bonjour, merci d'être avec nous. Donc vous étiez dans la matinale avec Christophe Jacubizine ce matin même. Même question sur l'état d'esprit. Là, je m'adresse à l'industriel historique, puisque votre groupe Tuan est implanté depuis très longtemps dans la région stéphanoise. Comment est-ce que vous vivez ce moment, ce début de printemps 2024 pour les industriels et pour la vôtre en particulier ?
Je pourrais dire qu'on est positif parce que dans la santé, on a toujours un marché qui va en croissant dans la mesure où on apporte des solutions nouvelles à des pathologies qui, elles, ont besoin d'être traitées et où on va le faire de plus en plus loin. Donc, je dirais, la croissance, elle est là. Elle est là, mais c'est un combat absolument quotidien. Et moi, j'aime bien le terme de combatif parce que c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel on est. Et effectivement, ce qui est toujours assez décevant et sur lequel il faut véritablement qu'on réfléchisse avec les pouvoirs publics, c'est est-ce qu'on est suspect ou est-ce qu'on n'est pas suspect ? Quand on a, par exemple, ce qui est notre cas pour nous, pour un audit ISO, qui est un audit très classique, qu'on a fait des dizaines de fois, quand on a un auditeur qui nous dit « on va venir passer 41 jours chez vous », 41 jours d'immobilisation de nos équipes réglementaires pour un audit qui est simplement le renouvellement de quelque chose qu'on a déjà fait. Je veux dire, c'est absurde en face du besoin. Donc, il y a quelque chose qui s'est décroché et il faut absolument qu'on remette ça en route parce que on ne peut pas, nous sommes responsables et nous n'avons pas de raison de mal faire. Par contre, cette sur-vérification, cette sur-réglementation qui est toujours dans le plus, eh bien, il y a un moment où elle devient véritablement une gêne, un frein et une espèce de possibilité d'asphyxie. Moi, quand je vois mes ingénieurs qui travaillent sur un produit nouveau et que je leur dis « attention, passez 30% de votre temps à écrire la conformité de votre travail par rapport au règlement », ben je me trompe. Parce que pendant 30%, ils ne vont pas inventer.
Est-ce que les annonces ce matin de Roland Lescure, notamment sur, il a reparlé du fameux PIEC qui va concerner le domaine de la santé. Donc les PIEC, ce sont les projets importants d'intérêt européen commun. Est-ce que le fait que ça concerne la santé, c'était d'autres domaines, maintenant c'est la santé. Vous qui êtes dans le médical, plus les annonces de Business France qui veut mettre en place un plan France Industrie pour, comme on dit, chasser en meute, pour que les industriels, vous puissiez porter davantage les marques françaises à l'international. Est-ce que toutes ces annonces, quand même, ça va dans le bon sens ?
Oui, bien sûr, les idées sont bonnes. Et puis, il faut penser une Europe de l'industrie, il faut penser une Europe de la santé, qui nous manque énormément, parce que la santé, c'est actuellement 27 systèmes différents. C'est absurde. On est un marché, il faut véritablement qu'on soit un marché qui ait des règles communes. Donc les annonces, elles vont dans le bon sens. Nous, vous savez, on est toujours dans l'attente de la transformation de cette annonce en une réalité. C'est ça qui nous notre concret, c'est le matin, qu'est-ce qu'on fait avec une annonce qui s'est transformée en une réalité. Et c'est ça qu'on attend.
Vous en êtes où en termes d'embauche, en termes de chiffre d'affaires et de résultats ? Est-ce que l'année 2023 a été bonne pour le groupe Tuan ?
Oui, elle a été bonne. Elle a été compositement bonne, c'est-à-dire des endroits qui sont meilleurs que d'autres et avec effectivement des endroits qui poussent et d'autres qui sont plus compliqués. Mais je dirais que ce serait trop facile de dire c'est bon. C'est bon, mais c'est acrobatique. Et il n'y a pas de raison de continuer à faire de l'acrobatie à ce point-là. Il faut véritablement que ce terreau de l'industrie moyenne ou grande en France, il faut qu'il se réforme, absolument.
On va parler dans un instant, je reste avec vous un tout petit moment, Alexandre Sobo, sur les start-up industrielles. Il y a eu un plan qui a été lancé en 2022, le plan start-up et PME industrielles. Plan suffisant, plan qui a bien accompagné, on en parlera avec nos invités dans un petit instant, mais voilà, selon vous.
Ouais, il faut le demander aux start-up qui sont accompagnées, mais en tout cas, vu de notre poste d'observation, avec la création de Start Industrie, tout le travail qu'on a pu faire pour faire vivre cette économie et cet écosystème des start-up industrielles, je pense qu'il se passe des choses positives, les financements de BPI, et surtout la prise de conscience que dans l'industrie, quand il faut passer à l'échelle, on a un vrai mur d'investissement. C'est-à-dire que transformer dans l'industrie une idée en réussite industrielle, c'est une vraie marche très très haute à franchir, qu'on ne retrouve pas forcément avec cette ampleur dans d'autres secteurs. On a beaucoup travaillé pour que les gens comprennent cette réalité avec les partenariats entre nos start-up et nos grands groupes, l'adossement quand il est possible, le travail ensemble et puis l'écosystème pour les aider à grandir. Donc il se passe des choses positives. Donc, vous savez, moi je suis très agnostique. À un moment, il faut que ça réussisse. Donc là, le rendez-vous, c'est dans 3, 4, 5 ans pour voir lesquels ont passé cette marche et sont devenus des vraies réussites industrielles.
En 2023, vous m'aviez parlé du programme Tech Factory de France Industrie. Est-ce qu'il est toujours d'actualité ?
Toujours.
Vous faites la quatrième édition en 2024.
Exactement.
Voilà, c'est ça.
Pour continuer à identifier, accompagner les startups industrielles. Et puis, cette idée de partager des expériences, de travailler ensemble, ça a été évoqué. Le travailler en meute, le fait de bien se rendre compte que dans le mode d'aujourd'hui, la concurrence, elle est loin. Et donc, plus en France on travaille
L'Union
ensemble,
fait la
plus
force.
On sera fort.
Absolument. Une de ces pépites industrielles est avec nous et est en plein essor, c'est Roboc. Alors, Rob pour robot et Oc pour Occitanie, c'est tout simple et le nom fonctionne. Bonjour Patrick Délinger.
Bonjour.
Vous en êtes le cofondateur. Donc, en quelques mots, voilà ce que vous faites chez Roboc.
Alors chez Roboc, on fait des robots mobiles.
Et je précise qu'il y en a un qui tourne sur notre plateau, voilà, il est juste derrière, on va le voir avec la caméra centrale. Voilà,
voilà, donc ça, c'est des robots de service d'intralogistique, donc c'est un peu particulier. En fait, c'est destiné à aider les collaborateurs à diminuer leur charge de travail et à augmenter la productivité. On évite simplement que les collaborateurs aient besoin de quitter leur poste pour pousser un chariot, une étagère ou attendre des ravitaillements. Ils pressent un bouton, le robot vient. Enfin, c'est très interactif et c'est vraiment perçu comme un assistant personnel, à l'opposé de l'informatique qu'on a l'habitude de voir, ou de la robotique qu'on a l'habitude de voir, où on impose des cadences derrière. Là, c'est vraiment l'opérateur qui décide quand il veut, quand il en a besoin, à tel point qu'il n'y a même pas d'intégration, en fait. On n'a pas besoin de le relier à l'IT, on n'a pas besoin de... C'est vraiment quelque chose qui fonctionne en coopération.
Pour des clients industriels ou pour d'autres types de clients.
C'est une des particularités de Roboc. En fait, le système est complètement polyvalent. C'est un peu la Ford ET des années 20. Au-dessus, on va mettre tout un tas de missions, des missions compliquées avec un bras cobotique ou des choses comme ça, ou des missions très simples, des chariots, enfin des caisses qu'on va transporter d'un point à un autre, et en particulier dans l'industrie. En fait, nos premiers clients sont essentiellement dans l'industrie aéronautique parce qu'il y a des problèmes de productivité en ce moment. Mais c'est le seul système qui soit aussi capable d'aller en TPE-PME parce qu'il n'y a pas d'intégration, parce qu'il n'y a pas besoin d'informatique lourde derrière, il n'y a pas besoin d'un ERP connecté.
Et une rapidité d'installation, hein, c'est votre point fort.
Une heure.
En fait,
c'est opérationnel entre une heure et deux heures suivant l'environnement.
On reviendra sur les produits dans quelques instants. D'abord, l'histoire qui prouve qu'un mal peut se transformer en bien. Je crois que vous étiez une dizaine de salariés chez Wika Robotics il y a une dizaine d'années. L'entreprise a eu des difficultés et vous vous êtes dit, bah, si on lançait quelque chose.
Oui, c'est ça. Donc, on va dire qu'il y a eu un moment un schisme, une direction qui a pris une autre voie. Donc, il s'est séparé de tout un pan de l'équipe. L'équipe a décidé de refonder une société où on connaissait ce qu'il fallait faire, comment, les améliorations. Et la particularité, c'est que tous les salariés de l'entreprise sont actionnaires de l'entreprise et ont créé l'entreprise au même moment. C'est comme une SCOP, mais c'est pas une SCOP, c'est quand même une SAS.
Entreprise qui est située dans le département du Tarn, du côté de Gaillac, et c'est là que vous produisez vraiment tous ces robots.
C'est ça, ils sont conçus, produits, assemblés.
On le voit bouger, voilà.
Voilà, ils sont même éco-conçus, puisqu'on a introduit directement cette notion dans la base, et ils ont été conçus pour être exportés facilement. On s'est aperçu au travers de notre expérience de toutes les barrières douanières qu'il pouvait y avoir, les protectionnismes qu'il y a quand on parle d'IA, robotique et ainsi de suite. C'est très protégé. Pour la petite histoire, on a un robot qui doit toujours être à la douane israélienne, il n'y a jamais passé. Alors il passait très bien quand il était prototype, hein, mais dès qu'on a voulu le vendre, c'était une autre histoire. Et là, en fait, le système est vraiment conçu pour être assemblé dans le pays de destination, ce qui nous permet d'atteindre des objectifs d'éco-conception importants.
Donc la base que vous avez créée avec tous vos salariés, vos associés, cette base s'appelle Noem, donc à partir de la rentrée 2023. Et ensuite, il y a des fonctionnalités qu'on peut mettre et ça devient, donc vous avez créé le modèle ROC-I, c'est ça, ROC-I.
C'est ça, en fait, Noem, c'est ce qu'on appelle l'AIV, le véhicule. Donc c'est une quasi-machine, ouais. C'est elle qui est polyvalente et à l'opposé de l'ensemble de l'industrie, on a intégré toute l'intelligence dans le véhicule. Donc pour éviter d'être obligé de se connecter à du Wi-Fi, de la radio et autres, en déportant l'intelligence. Et ROC-I, c'est un exemple de la simplification qu'on peut faire sur ce système. Et c'est un chariot automatique, on n'appelle même pas ça un robot, parce que robot, automatiquement, il y a une petite panique autour, on va dire c'est compliqué. On dit voilà, c'est un chariot autonome, et c'est vraiment fait pour être un chariot autonome, et ça se comporte comme un chariot. Mais autonome.
Le modèle économique, vous le vendez, vous le louez, il y a des services associés et donc, in fine, les perspectives de chiffre d'affaires.
Alors, le modèle économique, c'est de la vente. Dans un premier temps, de la vente de véhicules quand on est en France, ils sont fabriqués à Gaec. Puis quand on exporte, de la licence de fabrication, donc ce qui nous permet d'avoir une meilleure rentabilité. À côté de ça, il y a une partie récurrente qui est souvent la partie maintenance. On a une particularité, c'est qu'on fait de la maintenance à très long terme avec une maintenance évolutive technologiquement. Donc ça permet là aussi d'atteindre des environnements écologiques importants, mais surtout ça permet de garantir au client que son système ne sera pas obsolète dans 3 ans avec les progrès de la robotique et qu'on va pouvoir suivre tout ça.
Et ça coûte combien ? Quel est le prix d'un des modèles ?
Un chariot comme ça, ça vaut un peu moins de 50 000 euros.
Ah oui, en plus ça reste abordable.
Il n'y a pas de coûts cachés, il n'y a pas besoin de rajouter des coûts projet, des coûts d'équipement autour. Donc c'est tout à fait à la portée d'une petite société ou d'un grand groupe. Ça vient directement rajouter de l'ETP de production.
Chiffre d'affaires donc prévisionnel pour 2024 ou 2025.
Alors 2024, on pense qu'on va dépasser le million d'euros. On a été créé en juin 2023, hein, donc ça va très vite.
C'est un bon
début. C'est un peu atypique parce qu'on a créé directement avec un système qui a été directement mis en production industrielle. On estime qu'on va, d'ici 2028, on espère atteindre les 30 millions d'euros.
Et les embauches, à date combien, et combien de personnel et combien d'embauches?
Alors, une dizaine de personnes sur 2024, 10 à 17 de plus, suivant le taux d'accélération sur 2025. Pour finir sur une société qui n'est pas très grosse, parce que le problème des grosses sociétés, c'est l'inertie. En robotique, il y a beaucoup d'innovation, il faut qu'on reste très fluide. On va terminer aux alentours de 50-60 personnes en 2028.
Et il faut bien financer tous vos projets, même si j'ai bien compris, chaque salarié est actionnaire, mais il faut aussi de l'argent extérieur quand même. Vous êtes en processus de levée de fonds, ça en est où?
Alors, on fait une levée de fonds d'1,4 million en financement. C'est très compliqué en industrie. En particulier quand on n'est pas dans une phase de recherche, quand on arrive en phase de production et qu'on doit commercialiser le marketing, le commercial, embaucher les équipes commerciales et ainsi de suite. C'est quelque chose en France qu'on sait peu faire, pas faire, que les Américains font bien. Et ça fait partie des difficultés qu'on a à convaincre. Essentiellement, ceux qui rejoignent sont des anciens entrepreneurs, ce qu'on appelle les business angels, qui eux préfèrent arriver dans une entreprise où il y a déjà la production, déjà des clients. Ouais. Plutôt que des entreprises en R&D qui un jour délivreront quelque chose.
Cette difficulté, Alexandre Sobo, de financer, certes il y a les plans d'investissement de l'État, certes il y a l'argent privé, il est compliqué à cibler vers les industries en France.
C'est pas tant l'argent privé qui est compliqué à cibler, c'est qu'on a un système, ça a été dit, qui aide beaucoup la phase amont, l'innovation avec le CIR auquel il faut surtout pas toucher parce qu'il nous aide énormément. Mais quand on passe dans la phase d'industrialisation, on est plus tout seul. Et là, la compétitivité intrinsèque du pays est ce qui va permettre de financer. C'est par la rentabilité des projets qu'on va attirer les gens. Et c'est vrai que, compte tenu de ce qu'on n'est pas encore aujourd'hui le pays le plus compétitif du monde, il faut beaucoup d'intelligence, beaucoup d'innovation, beaucoup d'engagement des équipes pour être capable de présenter des projets attractifs. Mais dans l'état actuel de notre pays et de notre Europe, c'est plus des projets rentables qui manquent que de l'argent à investir.
On va passer en Saône-et-Loire. On a parlé de la Loire, on a parlé du Tarn. On va direction la Saône-et-Loire, direction Chalon-sur-Saône avec vous, Éric Rousseau. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes bien, je ne me suis pas trompé, directeur général de l'entreprise, hein,
oui,
du groupe.
Hein,
voilà, parce qu'il y a eu quelques évolutions récentes. Félicitations. Donc, un groupe créé en 1863 qui a donc passé le cap de ses 160 ans.
Oui, on a fêté ça l'année dernière, 160 ans.
Des
Alors, je pensais qu'on était une ancienne société, mais en discutant avec Elisabeth, en fait, 177 ans pour l'entreprise Tuan.
Voilà, vous êtes des voisins et de date et de géographie, hein, puisque c'est la même région. Et qu'est-ce qu'on fait chez Pinette PEI, qui est donc le nom du groupe, hein, maintenant?
Oui, tout à fait. Alors, on est une entreprise d'ingénierie industrielle et on travaille pour des biens d'équipement de transformation des matériaux composites ou des métaux en feuille. Alors, sur Global, aujourd'hui, je représente la partie métal en feuille,
ouais,
avec la société et la marque Jean Perrault.
Que l'on connaît bien, que l'on voit sur des camions, sur des...
Voilà. Comment savoir? On se lève tous les matins pour que justement elle puisse se développer. Et de l'autre côté, on travaille donc tout ce qui est thermodure, thermoplastique, fibre de verre, fibre de carbone, pour l'allègement, que ce soit sur les avions, que ce soit sur la partie spatiale, ou plus récemment sur les voitures électriques, parce que c'est toujours une volonté de réduire le poids de tous les engins terrestres.
Et vos enjeux de développement chez Pinette, on a parlé de tellement de choses. Vous avez pioché un peu dans les différentes demandes qui ont été émises autour de cette table.
Mais tout à fait. De toute façon, l'innovation fait partie de nos piliers stratégiques. Je dirais même que vous pouvez ajouter le partenariat. J'ai entendu parler tout à l'heure de Chasse en Meute. Si vous allez faire un tour sur le Hall 6, ça fait 4 ans et la 4e année qu'on a créé le village du métal, avec des partenaires qui ont des briques technologiques complémentaires et qui vont apporter une synergie. Une synergie au niveau de nos clients, au niveau de nos parties prenantes, de nos partenaires. C'est-à-dire qu'on va arriver... Par exemple, moi, je vais représenter le pliage. Il y en a un qui va représenter la découpe, l'autre de la formation. Cette année, on a la chance d'avoir les écoles de production avec nous. Ah oui. Cette voie un petit peu dissonante de la voie traditionnelle, en fait, de l'éducation pour des jeunes qui veulent apprendre, mais par une voie différente. Et puis, on a les compagnons du devoir. On a aussi Hexagone avec toute la partie programmation. Et je pense que demain, si on veut continuer d'innover, c'est en partenariat partageant en fait ces savoirs, en partageant nos ressources, nos bonnes pratiques, qu'on pourra aller de l'avant et qu'on pourra aller sur le troisième pilier qui est l'international.
Est-ce que vous savez, je reprends les mots sur la formation, l'emploi, est-ce que l'industrie, vous arrivez à la rendre sexy et de dire que l'industrie c'est plus Zola, ça a bien évolué, les métiers ont bien évolué, les techniques de production, est-ce que vous arrivez à rendre attractif l'industrie?
Vous participez à cette attractivité en fait, avec la France à tout pour réussir, on vous remercie, d'ailleurs à ce titre-là vous pourriez peut-être venir et délocaliser le plateau en Bourgogne, on a quelques entreprises de Bourgogne qui pourraient vous accueillir,
avec plaisir.
On pourrait goûter les produits de la Bourgogne en même temps que de partager les solutions et l'innovation industrielle de toutes ces industries qui représentent, alors pour ma part Chalon, le Grand Chalon, la Saône-et-Loire, mais également la Bourgogne et ses départements limitrophes. Donc oui, on est tous les jours en train de se battre pour l'attractivité. Alors je pense qu'on ne manquera pas d'idées, on ne manque pas de produits, on ne manque pas de services, mais demain, le sujet, l'enjeu majeur, c'est les talents. Donc aujourd'hui, Global Industries va nous permettre d'avoir 6000 jeunes, on en parlait encore ce matin, qui vont pouvoir venir voir, découvrir nos machines, découvrir nos savoir-faire, mais demain, je dirais pour moi, c'est vraiment les talents. Alors, on parle de ressources humaines, moi j'ai plutôt envie de parler de talents, parce que demain, on aura besoin d'hommes et de femmes dans l'industrie pour pouvoir progresser, pour pouvoir innover et continuer de se développer.
180 000 emplois à pourvoir en 2024 dans l'industrie selon nos confrères de l'usine nouvelle. Donc évidemment, il y a beaucoup de choses à faire. J'aimerais qu'on termine ce tour de table et cette émission sur la France des territoires. Ici, dans cette émission, on en parle beaucoup. L'importance de l'industrie pour nos territoires, pour nos collectivités, pour nos régions, pour nos départements. Elisabeth Ducoté, vous qui êtes implantée dans la Loire.
Oui, absolument. La Loire qui est à la fois un territoire qui a beaucoup souffert, parce qu'il y a eu des épreuves industrielles à répétition pendant des années, et je dirais qu'aujourd'hui il y a encore une grosse épreuve qui est la perte d'un élément majeur de distribution. Ceci dit, dans des territoires comme celui de la Loire, les gens savent ce que c'est que l'industrie, et l'industrie n'est pas ne leur est pas étrangère, c'est-à-dire que quand on implante de l'industrie, quand on fait de l'industrie, ils ont véritablement cette mémoire. Donc il y a cette espèce de base positive qu'il faut absolument utiliser, même si les métiers changent et qu'il faut devenir, il faut absolument être contemporain. Mais moi je crois beaucoup au territoire d'industrie, je crois que la mémoire de l'industrie reste, et je crois que c'est déjà une base énorme. À Saint-Etienne, on a fait de l'industrie depuis le 19e siècle, même le milieu d'avant.
Les cycles et les armes.
Exactement, alors qui se sont beaucoup dégradés, etc., et qui ont laissé place à beaucoup d'usines vides. Mais aujourd'hui, quand on parle d'industrie à Saint-Etienne, on parle vrai, on parle sincère et on peut reconstruire l'industrie.
Le patron d'Olotte, qui est aussi dans la Loire, est-ce qu'il est attaché à ce département et à cette région?
Bien sûr, on est attaché d'abord parce que c'est là que sont nos équipes, qu'on voit cet attachement à l'industrie, cet attachement aux entreprises. Et puis aussi, ce que je vois pas seulement dans la Loire, c'est quand est-ce que ça marche, quand tout le monde sur un territoire a le même projet. C'est-à-dire les collectivités locales, la région, le soutien de l'État quand c'est nécessaire, pour rendre l'acceptabilité, pour construire les infrastructures, pour les moyens de formation. On évoquait la bataille des talents, mais l'industrie de demain, elle réussira par plus de talents, plus d'innovation, plus de recherche. Et donc tout cet écosystème ne se décrète pas depuis Paris. On a besoin d'un cadre, on a besoin des moyens, on a besoin du soutien, mais à la fin, la réalisation, c'est dans les territoires qu'elle se passe, et c'est cette capacité qu'on a à créer au plus près du terrain un écosystème favorable qui fait qu'il y a des endroits où ça s'est très bien passé et ça continue à très bien se passer, des endroits où il y a eu des difficultés et on a pu rebondir, et puis encore des endroits où il y a beaucoup de travail.
Et en un mot, messieurs, il nous reste une minute d'émission, 30 secondes chacun, votre attachement au Tarn et à la région de Chalon. Je commence avec vous, du côté de Gaillac.
Alors, le Tarn, c'est une région qui est assez centrale en fait en Occitanie. On peut faire beaucoup de choses à partir du Tarn. Et je dirais pour nous, en localisation, l'Occitanie a un avantage, c'est comme on vise des TPE-PME, il y a quand même énormément de TPE-PME. Il y a des grands groupes, bien sûr, mais il y a beaucoup de TPE-PME et qui sont souvent sur des problèmes de productivité parce que tirés beaucoup par l'aéro et par d'autres.
Et votre attachement à vous, donc Eric Rousseau, à la région de Chalon.
L'attractivité, ce n'est pas que l'entreprise, ça doit être le territoire, parce qu'aujourd'hui, les personnes qu'on va attirer, bien sûr, il y a des produits, des services, mais il faut qu'il y ait quelque chose autour de l'entreprise. Il faut qu'il y ait des infrastructures, il faut des sociétés pour accueillir des autres personnes de la famille pour trouver des emplois, des structures territoriales pour accueillir les enfants, des loisirs, parce qu'aujourd'hui, c'est un mélange, c'est une juste balance entre l'entreprise et la vie autour de l'entreprise. Donc, les territoires font partie de l'entreprise et font partie de notre développement.
Merci à vous tous donc d'avoir participé à cette émission spéciale depuis le Salon Global Industrie. La France a tout pour réussir, vous le savez, c'est en télé, en radio, mais aussi sur l'appli et sur le site de BFM Business. La semaine prochaine, retour dans notre studio parisien. Très bonne journée, très bon week-end et à très bientôt sur BFM Business.
BFM Business, la France a tout pour réussir.